Raphaël, Joe Biden, un des favoris là, hein, de la course au leadership des démocrates, laisse planer, semble-t-il, l'idée qu'il prenne à faire qu'un seul mandat. Ça vient de sortir, mais il me semble que ça a déjà circulé, ça.
Ça a déjà circulé et pas seulement autour de la candidature de M. Biden. C'est-à-dire qu'à plusieurs reprises dans l'histoire américaine, lorsqu'on a eu des candidats qui étaient plus âgés, là, disons-le très clairement, qui frôlaient les 70 ans, qui étaient dans ces alentours-là, la possibilité de servir un seul mandat était évoquée. Et elle aurait été évoquée, je le mets au conditionnel, parce que après que ce reportage-là est sorti tôt aujourd'hui, l'équipe de campagne de Joe Biden s'est empressée de sortir publiquement pour démentir catégoriquement, dire non, c'est pas vrai. Une fois que ça s'est dit, gardons quand même ceci en tête. M. Biden a 77 ans. S'il devait être élu, il le serait à 78 ans. Il serait, et de loin, le président le plus âgé à être élu à un deuxième mandat. Et au bout d'un premier mandat, il serait rendu à 82 ans. Garde aussi ceci en tête. Jimmy Carter, ancien président, est allé déclarer publiquement il y a quelques semaines, quelques mois en fait, qu'il n'aurait pas, selon lui, été capable d'assumer les fonctions de président s'il avait eu 80 ans lorsqu'il était à la Maison-Blanche. C'est un président du même parti, on le rappelle, que M. Biden. Donc, c'est un enjeu légitime. Et je te disais qu'il y avait d'autres candidats qui avaient fait l'objet de spéculations de la sorte. Mentionnons M. Reagan en 80. Et qui était lui aussi autour des 70 ans, il avait 69 ans. Et John McCain, on l'oublie parce qu'il a perdu, mais John McCain aurait été le président le plus âgé s'il avait été élu en 2008 face à Barack Obama. Et rappelons-nous également que le choix de colistier, donc de candidat vice-présidentiel, ça pèse drôlement lourd dans la balance dans un contexte comme ça, parce qu'évidemment, si on a quelqu'un qui est âgé, qui est plus susceptible de mourir en fonction, bien, le vice-président, la vice-présidente, peut accéder aux fonctions présidentielles sans avoir été élu directement au poste de président.
Tu sais, Raphaël, moi, je veux pas offenser personne. Je veux dire, tu as 77 ans, tu travailles encore, bravo, aucun problème, admirable. Mais tu es président des États-Unis d'Amérique, c'est un travail qui est exténuant. Tu es sollicité à chaque heure du jour, à chaque minute pour prendre des décisions qui sont extrêmement importantes. C'est pas nécessairement un job de jeune personne. T'sais, on veut pas des gens qui ont 30 ans. Mm-hmm. Mais 77, il me semble que ça te prend une vigueur qui, statistiquement, te manque à 77 ans.
Sais-tu ce qui est drôle dans ce que tu viens de dire? C'est que tes propos sont presque identiques à ceux de Robert Gates. Qui est Robert Gates? Mm. C'est le secrétaire à la Défense dans l'administration Obama, dans laquelle Joe Biden était lui-même vice-président. Mmh. Autrement dit, c'est un ancien membre du cabinet dans lequel servait Joe Biden qui est allé dire la même chose il y a quelques mois, c'est-à-dire, c'est pas une job comme les autres. J'ai servi comme secrétaire à la Défense auprès de plus d'un président. Je peux vous dire, ce n'est pas une job comme les autres et c'est pas quelqu'un qui est à 75 ou à 80 ans qui est nécessairement le mieux équipé pour le faire. Une fois que tout ça s'est dit, rappelons quand même que Donald Trump frôlerait lui-même les 80 ans s'il était élu un deuxième mandat à la fin de son deuxième mandat. Donc, écoute, on pourrait avoir un combat de septuagénaire l'an prochain, carrément. Là.
On pourrait, mais quand on sait l'horaire du temps, l'emploi du temps de Trump...
c'est plus relax,
qui ne ressemble à celui d'aucun président récent, passe beaucoup plus de temps à tweeter qu'à lire des dossiers, mettons.
Et beaucoup de télévision aussi.
Beaucoup de télévision, c'est moins épuisant que de faire la vraie job de président des États-Unis.
Et beaucoup de golf, Pat, également.
Beaucoup de golf, oui. Pas très bon, par exemple. Mais ça dit quelque chose, le fait que... Ça dit quelque chose sur le Parti démocrate, non? Que Joe Biden, 77 ans, soit le démocrate le plus en vue.
Et que son rival, Bernie Sanders, son rival principal aujourd'hui...
Il a 94,
dans les sondages, ouais, ben, il était quand même plus vieux que lui. Il frôle littéralement.
Il est plus vieux que Biden?
Il est plus vieux que Biden. Et Elizabeth Warren, qui a été première pendant quelques semaines, elle aussi... Je pense qu'elle était soit 69 ou 70. Et Bloomberg également, Michael Bloomberg, ex-maire de New York, nouveau candidat, qui dépasse les 70.
Dans la brochette, ou je devrais plutôt dire les brochettes de candidats actuels, tu sais, où est le candidat prometteur à la Obama, à la gouverneur Clinton de l'Arkansas? Moi, j'en vois pas dans l'offre démocrate actuelle.
Il y en a très peu. Celui qui essaie de se présenter comme ça, c'est le fameux maire de la petite ville de South Bend en Indiana, Pete Buttigieg, le nom d'origine malte que personne n'est capable de prononcer, parce que le type a un peu moins de 40 ans. T'sais, en même temps, regarde sa feuille de route, c'est ridicule. Disons-le très franchement, pour quelqu'un qui aspire à être président, c'est ridicule.
De quelle ville, donc, il était?
South Bend.
Il est maire actuellement, là.
Écoute, tu verrais, il ne le sera plus le mois prochain. Il va avoir fini son deuxième mandat. Donc, le type va avoir comme plus grand accomplissement professionnel et politique d'avoir été l'ex-maire d'une ville de 100 000 habitants. Et ça, je te dirais que c'est le symbole de la relève.
Il y a autant de monde à South Bend que sur le plateau Mont-Royal, 102 000 personnes.
Oui, et il y en a moins qu'à Trois-Rivières, la ville d'origine. C'est pas une farce, je te jure, c'est vrai.
Donc, que tu viens de Trois-Rivières?
Ouais, les deux. Je te donne jamais de fake news. Donc, c'est vrai à la fois que je viens de Trois-Rivières et qu'il y a plus d'habitants à Trois-Rivières. Il y a plus de trifluviens que de gens à South Bend.
OK. Une autre journée, évidemment. Une autre journée qui est liée aux armes à feu aux États-Unis.
Oui, on en a parlé un peu, mais pas tant que ça. Une fusillade épouvantable qui a eu lieu pendant la fin de semaine à Jersey City, non loin de New York. On semble comprendre aujourd'hui, avec ce qui sort dans les médias américains, que ça aurait été un crime de nature haineuse qui aurait ciblé, en fait, qui a ciblé la communauté juive. Et là, il y a vent, on a vent, en fait, d'un autre crime, en fait, d'un autre meurtre ou homicide plutôt involontaire qui, lui, a eu lieu en Alabama, complètement sordide. Et je te l'explique rapidement. Chicane familiale, un membre de la famille qui sort une arme, commence à tirer sur un autre. L'autre en question sort une arme, lui aussi, de son côté, commence à tirer. Qui est au beau milieu de tout ça? Un petit garçon de 5 ans qui reçoit quoi? Une balle dans la tête, qui est mort aujourd'hui. Et là, tu vas me dire, en fait, un petit peu comme tu viens de le faire, que c'est une journée de plus, c'est 1, 2, 3 morts de plus aux États-Unis. On parle souvent des statistiques générales, le nombre total de morts par arme à feu aux États-Unis. Ça inclut évidemment les adultes. Je me suis penché sur l'année 2018, la plus récente pour laquelle, évidemment, on a des statistiques totales pour les victimes auprès des victimes mineures. Près de 700 enfants âgés entre 0 et 11 ans. 11 ans sont morts d'armes à feu ou d'armes à feu l'an dernier. C'est quelque chose, là. Pensez une seconde.
C'est une réalité qu'on peut à peine comprendre.
Absolument.
Ici. Mais dans un pays où tu as plus de guns en circulation que d'habitants, ben c'est le genre de choses qui arrivent. Il y a quelque chose comme 23 000 morts par arme à feu aux États-Unis.
Autour des 20 000 à chaque année. Oui.
Merci Raphaël. On te reparle demain. Il est presque 16h57. Au retour, nos chroniqueurs de la prochaine heure, Luc Ferrandez, Pierre-Yves McSween, les accros de la télé. Bougez pas.